Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Vous êtes sur Europe 1, merci pour votre fidélité, merci d'être avec nous. Nous parlons ce soir de cette grande question, comment sauver l'hôpital public? Les députés et les filles se sont rendus dans des hôpitaux pour évaluer les besoins, en rendre compte à l'Assemblée nationale. Et Louis Boyard, député NUPES de la 3e circonscription du Val-de-Marne, est mon invité. Alors Louis, on va tout dire aujourd'hui à nos auditeurs qui sont avec nous en direct. Vous êtes, au moment où l'on se parle, dans l'ascenseur d'Europe 1 en train de me rejoindre. Alors on commence notre débat dans l'ascenseur.
Juste devant l'ascenseur.
Ça va Louis Boyard? Il est sympa l'ascenseur d'Europe 1?
Eh bien écoutez, la climatisation tourne à fond. Je ne suis pas sûr que ça réponde à nos besoins écologiques, mais en tout cas, le cadre
mais
est spacieux.
Mais on va en parler, vous étiez peut-être aux célébrations, Jean Jaurès, c'est pour ça que vous êtes en retard?
Tout à fait, exactement. C'est le 108e anniversaire de l'assassinat de Jean Jaurès par l'extrême droite. Et on a rappelé quelques fondamentaux, quelques principes importants, notamment que la République est parfois utilisée comme un mot très très creux et qu'il faut y rajouter un peu d'idées politiques pour que ça devienne concret. Et ça concerne notamment la question des hôpitaux.
Bon, vous allez venir en courant, ne soyez pas trop essoufflé parce qu'on va tout de suite commencer un peu fort. Vous savez, il y a justement ce papier de Michel Onfray, là, ce matin, dans le JDD, qui parle justement hein, de ce que vous étiez en train de nous évoquer, cette fête Jean Jaurès. Lui, Michel Onfray, il dit, et je vais le citer, Louis Boyard, à l'heure où tout le monde invente l'histoire, banco, allons-y, écartons les idéologues de cour et déconstruisons cette mythologie qui permet à la gauche de croire qu'elle incarne systématiquement le camp du bien, de la morale et de la vertu, y compris quand elle part son antisémitisme d'un antisionisme que partageait déjà le grand Mufti de Jérusalem qui souhaitait ardemment la victoire du Troisième Reich.
Bon, sur ça, il y a deux choses à dire. Déjà, premièrement, que vous soyez de gauche ou de droite, j'espère que vous faites de la politique en pensant que vous faites le bien. La question, tout le monde cherche à incarner le bien, sinon on ne s'engagerait pas en politique. Deuxièmement, pour ce qu'il dit sur l'antisémitisme, je trouve ça...
Alors effectivement, l'ascenseur, c'est sympa, mais...
Louis Boyard,
attendez, vous allez devoir reprendre, parce que dans l'ascenseur, vous avez pas un... Enfin, ça ne capte pas bien, en fait. Donc reprenez, s'il vous plaît.
Très bien. Alors déjà, premièrement, j'expliquais que quand il parle de gauche et de camp du bien, je me demande bien qui fait de la politique sans penser à incarner le bien. C'est normal de chercher à bien faire. Donc c'est une formule que je trouve assez étrange. Et ensuite, deuxièmement, sur la question de l'antisémitisme, je le trouve assez insupportable. L'antisémitisme, c'est
pourquoi
pas un mot qu'on peut utiliser... Parce que l'antisémitisme, c'est pas un mot qu'on peut utiliser comme ça à la légère. C'est un mot qui est chargé de 2000 ans d'histoire. Ça fait 2000 ans que les Juifs sont persécutés tout le temps, jusqu'à arriver au pire crime que l'humanité n'ait jamais commis. Et quand on utilise le mot antisémitisme, on charge le mot de cette histoire. Ça nous appelle à la fois à de la vigilance, parce qu'on doit jamais rien laisser passer, mais ça nous appelle aussi à de la rigueur. On peut pas l'utiliser comme ça, à tort et à travers.
Mmh. Louis Boyard, restez avec nous. On va écouter Michel Onfray. Il est en ce moment en direct sur CNews. Encore une fois, il charge la gauche, hein.
Une partie de la gauche, enfin du moins le Parti communiste, la France insoumise et quelques autres, des écologistes, ont signé un texte qui parlait d'apartheid concernant Israël. Je trouvais ça inadmissible. Enfin, je veux dire que, donc je ne suis pas bien sûr que dans les pays d'apartheid, on autorise les gens à pratiquer leur religion si ça n'est pas la religion dominante. Et j'ai estimé qu'il y avait une grande tradition du côté de la gauche, une grande tradition antisémite et qu'elle revenait.
Grande tradition antisémite. À gauche, ça revient. Et vous vous asseyez à ce moment même. Et respirez, Louis Boyard.
Ah, tout
va bien.
Les escaliers, mon avis.
Non, respirez, on va prendre le temps. On passe un bon quart d'heure ensemble.
Tout à fait.
Bon, ça va?
Ça va très, très bien.
Bon, on reprend sur Michel Onfray. Il y a à gauche une grande tradition antisémite.
J'ai du mal à comprendre ce qu'il veut dire par là. Et encore une fois, je trouve que c'est extrêmement dangereux. C'est un mot qui est utilisé pour discréditer un adversaire. Vous savez, nous, quand on parle d'apartheid, vis-à-vis de ce qui se passe en Palestine ou en Israël. Est-ce que, sincèrement, vous pensez qu'on le ferait parce qu'on aurait quelques problèmes que ce soit vis-à-vis de nos compatriotes juifs? Absolument pas. Est-ce que vous pensez qu'on le fait parce qu'on questionne de savoir si, oui ou non, il y a des atteintes aux droits de l'homme qui sont commises, par exemple, dans la bande de Gaza? Où vous avez près de 9 personnes sur 10 qui ont du mal à avoir accès à l'eau? Où vous avez 50% de personnes qui vivent au chômage et qui sont entretenues dans un système qui n'est pas digne? Quand nous, on pose ces questions-là, on les pose parce qu'on s'intéresse à la question des droits de l'homme ou parce qu'on aurait un quelconque problème avec une religion? Non. Et c'est là où je dis qu'il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Parce que l'antisémitisme, c'est un mot qui est chargé d'histoire. Et c'est une histoire qui est importante. Et c'est une histoire qui est lourde et qui nous appelle à la vigilance. On ne doit jamais rien laisser passer, mais aussi à la rigueur. On ne l'utilise pas à tort et à travers.
Louis Boyard, le titre de ce papier, La synagogue brûle, Mais regardons ailleurs.
Mais en vérité, Michel Onfray n'existe que à travers ça. Je me demande sincèrement quand est-ce que Michel Onfray a apporté quelques contributions utiles au débat public. Il ne vit que sur ces thématiques. Il parle à un moment du fait qu'on aimerait qu'il y ait des débats qui n'existent pas, mais on accepte d'avoir tous les débats. C'est lui qui refuse d'avoir un débat, et je le dis, c'est un débat, il peut ne pas être d'accord avec nous, mais d'avoir un débat sur la question de l'atteinte aux droits de l'homme.
Vous aimeriez, vous, Louis Boyard, avoir un débat ici avec Michel Onfray pour parler justement de ces grandes questions des droits de l'homme, sur ce qui se passe notamment en Palestine ou encore en Israël. Vous seriez enclin à le faire ?
Mais ce débat-là, je ne veux pas l'avoir avec des pseudo-intellectuels qui ne vivent que de ça. Je veux l'avoir avec des responsables politiques. Je veux l'avoir avec des responsables politiques internationaux. On n'est pas en train d'avoir un débat de salon autour d'une tasse de thé. On est en train de parler de la vie. De vie humaine, d'atteinte aux droits de l'homme. Et Michel Onfray n'existe qu'à travers ça. Je ne pense pas qu'il soit particulièrement intéressant de discuter de ça avec lui.
Une dernière chose, peut-être, en ce qui concerne Michel Onfray. Lui, il dit qu'il n'y a pas d'apartheid en Palestine. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien, écoutez, il y a quatre papiers d'identité différents là-bas. Vous avez quatre, avec chacun des droits civiques différents. Une partie de la population, même une grande partie, n'a pas le droit de construire des maisons, par exemple, là-bas. Et quand elles ont construit, elles sont détruites. Regardez l'état dans lequel sont laissés les habitants dans la bande de Gaza et interrogez-vous.
Lui, Michel Onfray, dit ça, en ce moment même sur CNews, alors que nous sommes en direct, Louis Boyard, il dit qu'ils ne sont pas dans des bus à part, par exemple, en Israël.
Mais écoutez, vous savez quoi ? Ayons un débat. Mais en fait, Michel Onfray ne veut pas avoir de débat sur ça. Ces gens sont constamment dans l'insulte, dans la caricature, et en plus en utilisant un mot qui ne doit pas être utilisé à tort et à travers, et qui fait du mal. Parce que quand vous avez de l'antisémitisme, réellement, concrètement, si on a dévoyé le sens de ce mot avec toute son histoire-là, alors à quel moment est-ce qu'on a fait preuve de rigueur et de vigilance ? Donc, ayons un débat, et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, qui peut-être ne sont pas d'accord avec moi, à regarder ce qui se passe là-bas. Écoutez, la Palestine brûle, et Michel Onfray regarde ailleurs.
J'aimerais qu'on revienne sur ces mots, en fait, qui peuvent faire mal parfois, Louis Boyard. Et on va en venir aussi à l'Assemblée nationale. Lorsque vous étiez à l'Assemblée nationale, avec ces propos, les propos de racaille pour les députés Renaissance, Aurore Berger, elle l'a en travers aussi de la gorge, leur patronne à l'Assemblée nationale, elle demande des sanctions. D'abord, est-ce que vous assumez ? Et est-ce que vous regrettez ?
Alors, franchement, juste, je vais vous répondre à votre question, mais moi, j'étais venu pour parler des hôpitaux.
On va en parler,
quand
bien évidemment.
Quand on parle, par exemple, mais je vais vous donner l'exemple encore du débat qu'on vient d'avoir au sujet de Michel Onfray. Je trouve qu'aujourd'hui, dans la tenue de nos débats, on s'arrête beaucoup trop à la forme et jamais sur le fond. Et j'en ai sincèrement marre de commenter constamment des affaires de cours de récréation sur ce qui aurait pu se passer à l'Assemblée nationale.
Louis Boyard, j'entends parfaitement. Mais juste, c'est important, on parle de vous en direct, dans un média d'importance. Il était important pour nous de pouvoir vous questionner dessus. On ne va pas vous faire venir, faire comme si de rien n'était. C'est important que vous ayez un droit de réponse, Louis Boyard. C'est important.
Sur ça, je ne veux pas commenter des affaires de cours de récréation. Et Aurore Berger a appelé à des sanctions contre moi. Eh bien, écoutez, je me présenterai devant la présidente de l'Assemblée nationale avec un immense plaisir si elle m'y invite. J'expliquerai en quoi la demande d'Aurore Berger n'est pas fondée. Et j'en profiterai aussi pour rappeler à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale que Aurore Berger ne tient pas ses troupes en matière de sexisme à l'Assemblée nationale, notamment vis-à-vis de mes collègues Aurélie Trouvé ou Sandrine Rousseau.
Bon, j'aimerais qu'on continue et qu'on parle de ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire l'hôpital public, mais avant tout, cette question qui pour nous est très importante, en tout cas moi elle me tient à cœur. Qu'est-ce que vous en pensez, Louis Boyard ? Vous êtes un jeune député. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut tout dire à l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous avez l'envie d'être libre ?
Bien sûr, libre sur tous les sujets. Il y a un sujet pour moi qui mérite d'être porté, c'est le fait qu'il y a un décalage générationnel aujourd'hui entre des gens qui peuvent être de ma génération, qui sont nés dans la culture Internet, qui ont un rapport aux questions de réchauffement climatique, de féminisme, de genre qui est totalement différent. Et ce décalage-là, il a besoin d'être porté. Moi, c'est ça que j'ai envie de porter. La jeunesse aujourd'hui, elle a des aspirations politiques qui ne sont pas abouties. Il n'y a qu'à voir à quel point on prend du retard sur le réchauffement climatique. Donc, quand on est parlementaire, on a la chance d'être libre, de pouvoir dire ce que l'on veut, et je vais profiter de cette liberté.
Alors, venons-en à l'hôpital public et vous allez pouvoir en parler librement, justement. Malmené, cet hôpital public, pendant des décennies, les députés et les filles ont lancé leur commission d'enquête populaire, une sorte de nouveau Ségur de la santé. Allô Ségur, les députés dans les hôpitaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous étiez pour cette mesure ? Vous vous êtes déplacé, vous aussi, dans les hôpitaux du Boyard ?
J'ai une visite dans un hôpital de ma circonscription qui est prévue, mais j'ai déjà eu des échos de ce que racontent les autres députés, et en vérité, je l'avais déjà vu. Vous avez des couloirs entiers qui sont remplis de lits avec des gens qui attendent pendant des jours, parfois sans soins. Les soignants, il y a eu le Ségur de la santé avec quelques revalorisations salariales. Le gouvernement ne comprend pas qu'aujourd'hui, la difficulté dans les hôpitaux, ce n'est pas une question de salaire, c'est une question de conditions de travail. Vous avez des personnels soignants qui vous racontent qu'ils passent de personne à soigner à personne à soigner, sans avoir le temps de discuter. En fait, le métier a perdu toute son humanité. Et ça n'a pas toujours été le cas. Je me rappelle quand j'avais 6-7 ans, on me disait « Oui, la France, c'est le meilleur système hospitalier du monde. » C'était une fierté. Aujourd'hui,
un exemple, oui.
Qui en France peut dire que le système hospitalier français est un exemple ? Interrogeons-nous sur qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors justement, quel bilan est-ce que vous tirez de ces déplacements ?
En fait, le bilan qu'on en tire, c'est qu'il va falloir avoir une autre logique du financement de l'hôpital public. Après la Seconde Guerre mondiale, à la Libération, on a eu des acquis qui ont dit que ça devait être à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et qu'on devait se faire soigner, quel que soit notre niveau de revenu. Tout ça, ça s'est terminé. À partir de 1995, on a commencé à dire « Bon, on va regarder combien est-ce que ça coûte dans l'hôpital public. » Et à partir de, il me semble, 2007, on a commencé à dépenser moins d'argent que ce qu'on était autorisé à dépenser. Pourquoi ? Parce que vous avez le ministère de la Santé, les directeurs d'hôpitaux, qui n'arrêtent pas de couper les budgets, couper les budgets. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans une situation, Mathilde Panot me racontait ça dans un hôpital, vous avez une porte qui ne s'ouvre pas, les soignants ont été obligés de mettre une petite ficelle sur la porte, de la tirer. Enfin, vous arrivez à des situations... Mais stupide. Par exemple, manque de blouse, on a mis des sachets poubelles.
Et on continue d'en parler ensemble, le voyage, juste après la pub, parce qu'on doit lancer aussi la pub. Vous respirez, on est ensemble sur Europe 1 avec vous, le voyage.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Bon, je parlais en même temps avec Louis Boyard, là. On continue, vous nous expliquiez, Louis Boyard, je rappelle aussi que vous êtes le député NUPES de la 3e circonscription du Val-de-Marne, que vous étiez allé dans les hôpitaux avec vos autres confrères d'LFI pour... vous faire une sorte de Ségur de la santé, voir ce qui n'allait pas, voir ce qui manquait. Et il y avait ce constat qui était flagrant, qui était terrifiant, avec le manque de moyens permanent.
On va rendre des listes de moyens, de manque de moyens dans les hôpitaux, et vous serez étonné de voir qu'il manque des choses extrêmement simples.
Comme
par exemple, une poignée de porte qui vous empêche d'ouvrir une porte, une blouse.
Donc on ne rentre plus dans des pièces parce qu'il n'y a pas de poignée de porte ?
Si, mais comme je vous ai raconté pour l'exemple de juste avant, on accroche une petite ficelle, on trouve... Non mais, visiter un hôpital, c'est se rendre compte à quel point la gestion managériale et comptable est arrivée à une absurdité telle que des choses si simples manquent parce que juste, il n'y a personne pour s'en occuper. Et aussi parce que même, vous savez, quand vous faites, il y a ce qu'on appelle le tarif à l'acte. Quand vous devez opérer quelqu'un, par exemple, eh bien, on regarde combien est-ce que ça coûte, combien de temps est-ce que ça va prendre. Et dans l'hôpital public, on compte tout. On compte la moindre petite chose. Ce qui fait que les soignants sont obligés d'avoir une efficacité maximale avec des moyens minimaux et que derrière, la question d'humanité et de soins, et l'hôpital public français s'est construit sur ça, n'existe plus. Et donc, dans l'hôpital public, il va falloir arrêter d'avoir une logique comptable comme on a en fait depuis 1995.
L'idée que vous avez chez LFI, c'est de proposer un contre-budget. C'est quoi un contre-budget ? Comment est-ce qu'on le propose à l'Assemblée nationale ?
Bien, écoutez, déjà, on va inverser la logique. On va revenir à ce qui avait été acquis après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Ensuite, sur le budget, nous, on est pour recruter 180 000 soignants de plus. Certaines personnes pourraient se dire que c'est beaucoup. On ne propose pas une avancée sociale en proposant ça. On propose de rattraper un retard, parce que c'est bien de ça dont on parle. Ensuite, derrière, il va falloir avoir, si jamais nous réussissons à arriver au gouvernement, il va falloir faire ce que l'on venait en train de faire aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire envoyer les parlementaires ou n'importe quelle autre personne dans un hôpital et faire la liste de ceux qui manquent, en personnel et en moyens matériels.
Mais comment on fait pour trouver l'argent au moment où c'est la crise partout ? Mais, au niveau des finances publiques, comment on fait ? Parce que là, c'est... Mais vous avez raison, c'est obligatoire, c'est une fonction régalienne de l'État. On n'a pas le choix, il faut soigner les Français. Mais comment on fait pour trouver l'argent ?
Je trouve quand même fou qu'on n'arrive pas à trouver de l'argent en France, alors que vous regardez, en 2 ans, la fortune de Bernard Arnault a doublé.
Donc on fait quoi ? On ponctionne l'argent de Bernard Arnault ?
Je vais vous dire autre chose. Sur la loi pouvoir d'achat, qui est censée donner du pouvoir d'achat aux Français, les grosses entreprises et les multimilliardaires de ce pays, on ne leur a pas pris un euro. De l'argent, il y en a. Il suffit d'aller le chercher. Et qu'on ne me fasse pas croire que ces gens partiraient du pays, parce que tant qu'il y a de l'argent à se faire, et il y a de l'argent à se faire, ces gens resteraient.
Vous parlez d'un système de santé, Louis Boyard, à deux vitesses, mais on sauve aussi des vies dans les cliniques. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a vraiment un système de santé à deux vitesses ? La santé, c'est soigner dans une clinique, la santé, c'est soigner dans un hôpital. Comment on fait pour éviter de séparer et pour rassembler, pour soigner les Français ?
Mais c'est très simple, vous donnez des moyens à chacun. Vous savez,
on dit
par exemple aussi, bien sûr qu'on peut.
Comment ?
Mais écoutez, en fait, de l'argent, il y en a. C'est ça que j'arrête pas de dire. C'est que vous avez, par exemple, des entreprises, je pense à Total, qui fait 17,7 milliards de profits. Nous, on veut leur en prendre 5. donnez-nous 5 milliards, vous verrez à quoi il ressemblera l'hôpital public juste après. Mais je ne vous parle pas que de l'hôpital public, je vous parle aussi de la médecine des villes, où vous avez des déserts médicaux. Là, encore une fois, c'est pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de soignants. Ou pourquoi ? Parce que les gens partent dans le privé. Parce que aussi, beaucoup de soignants, quand on va leur parler à l'hôpital, ils nous disent « mais nous, on n'est pas là pour le salaire. Nous, on est là pour la vocation. Si jamais j'allais dans le privé, oh, je m'en sortirais bien mieux. » Et ils veulent y rester. Donc de l'argent, il y en a. Suffit d'aller le chercher. D'autant que je note que ça fait 5 ans qu'on ne leur a rien pris.
Louis Bayard, on va finir avec cette question, certes un peu disruptive. Des bonnes résolutions pour la rentrée, comme serrer la main, par exemple, ou encore mettre des cravates. Est-ce qu'on fera ça à la rentrée ?
À la rentrée, on va réfléchir à comment continuer de mener les idées pour lesquelles on a été élu. On ne serrera pas la main à l'extrême droite parce qu'on
toujours
continue
pas.
De poser. Mais en fait, en le faisant, c'est pas une question de poignée de main. On s'en fiche de ce sujet-là. C'est de poser la question est-ce que il y a 20 ans, quand vous aviez Jacques Chirac et Simone Veil dans le paysage politique, la rentrée de 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée, ça aurait eu la même teneur ? Non, parce qu'à l'époque, on avait encore des grands hommes et des grandes femmes d'État, notamment de droite, puisqu'à gauche, nous, on tient le discours, mais qui étaient capables de dire non, ce n'est pas normal. C'est ça le message politique qu'on veut envoyer. Vous savez, pour la cravate, c'est pareil. Moi, je ne vais pas aller... Je ne porte pas de cravate dans la vie.
Vous voulez être libre, vous nous l'avez dit tout à l'heure.
Je suis libre et puis surtout, je viens pas non plus habillé en clown, hein, je porte une chemise, voilà. Je viendrai pour n'importe quel endroit où on me demande d'être respectueux, mais je ne vais pas me déguiser non plus.
Merci.
Et si je suis élu, c'est parce que les gens m'ont élu comme ça
Louis
et je vais tenir
Boyard,
la ligne avec laquelle j'ai été élu.
C'est noté. Merci d'avoir été notre invité. Député NUPES de la 3e circonscription du Val-de-Marne, merci d'avoir accepté mon invitation sur Europe 1.
Merci à vous.
À suivre, c'est la fin des mesures coercitives avec ce nouveau projet de loi sanitaire. Ce sera dans quelques instants sur Europe 1, bien sûr. Merci de votre fidélité.